Aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte, ça a déjà été dit. Et cette fête, elle est importante pour les Juifs comme pour les chrétiens. Pentecôte est la deuxième des trois solennités annuelles du peuple de Dieu. Il y a Pâques, 50 jours après, il y a la Pentecôte, puis pour les Juifs, il y a celle des tabernacles. Et lors de ces fêtes, tout homme d'Israël devait se présenter devant le sanctuaire. Cette fête de Pentecôte s'appelait aussi fête des semaines, fête des prémices, fête des moissons. Il y avait donc beaucoup d'hommes pieux à Jérusalem ce jour-là. Et 10 jours auparavant, Jésus est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu. Il a simplement repris la place qui était la sienne à la création. Il a laissé sa place, sur place des témoins avec une mission faite de toutes les nations des disciples. Mais attendez, attendez tranquillement ce que je vais vous envoyer. Voilà la situation de cette première Pentecôte des chrétiens. Alors j'ai pris le même texte que Laura nous a lu, donc tu nous as fait gagner deux minutes. Et quand nous lisons ce texte, il y a une première remarque. Pour marquer l'importance de cet événement, Dieu fait réagir les éléments naturels de la création. Ce n'est pas nouveau, mais c'est assez rare. Nous retrouvons de telles manifestations, par exemple dans Exode, sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï, Exode 19-18, le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Et c'est là que Dieu avait quelque chose d'important à donner. C'est là qu'il a donné les 10 commandements. Je ne vais pas vous énumérer tous ces événements, mais par exemple, dans le livre des Rois, l'Éternel dit à Élie, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après cela, il y eut le feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Souvenons-nous que Élie était en dépression, il voulait mourir. Un peu plus loin, dans Ésaïe, le Seigneur dit à Ésaïe, le Seigneur des armées célestes interviendra pour toi avec le fracas du tonnerre, des tremblements de terre et un bruit formidable, la tempête et le tourbillon, la flamme d'un feu dévorant. Et pour Jésus, lorsque Jésus était sur la croix, il était environ midi, quand le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité, et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Comme si, lorsque Dieu parle exceptionnellement, il joint à la parole la réaction des éléments naturels. Alors, grand A, qui est le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité ? Son nom, il y en a plusieurs dans la Bible. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Esprit de l'Éternel, mais aussi Esprit de vie, de vérité, de foi, d'amour, de force, de sagesse, de grâce, de gloire. Et vous en retrouverez encore d'autres. Et sa personnalité. Le Saint-Esprit est une personne car on peut lui mentir. Souvenez-vous de Ananias et Saphira qui ont essayé. On peut le tenter, on peut lui résister, on peut l'attrister, l'outrager. Mais là, c'est dangereux. Mais ce n'est pas le sujet. Il enseigne, il témoigne, il convainc, il conduit, il entend, il annonce. Exactement comme Jésus. Et dans Jean 14, 26, je vous donne juste ce verset, « Mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. » Un mot sur la divinité, il est comme Dieu, il est omniscient, omniprésent, omnipotent et éternel. Nous lisons dans 1 Corinthiens 2, « L'Esprit scrute tout. » Même les pensées les plus intimes de Dieu. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Son œuvre dans l'Ancien Testament, juste quelques détails. Il était là dès la création, Genèse 1-2, le deuxième verset de la Bible. Or, la terre était alors informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Il donne, quelques jours plus tard, le souffle aux animaux. Et nous revenons dans le désert comme exemple lorsqu'il qualifie des hommes en vue de tâches spéciales. Exode 31. Dieu dit, « J'ai rempli Betsaléel de l'Esprit de Dieu, qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence, pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets et les exécuter en or, en argent, en bronze, pour tailler des pierres et pour sculpter le bois. Il inspire encore les rois, à l'exemple de David, qui, dans un moment de détresse, dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint, tellement c'est important !» Et il donne l'inspiration naturellement à tous les prophètes et aux juges que nous pouvons lire dans l'Ancien Testament. Son œuvre en Jésus. Par l'Esprit, Jésus est déjà conçu, oint, scellé, rempli, revêtu de puissance, conduit, offert en sacrifice, ressuscité et élevé au ciel. Luc 4 nous dit « Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et le Saint-Esprit le conduisit dans le désert. » Et un peu plus loin, Jésus, rempli de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et enseignait dans les synagogues. Chers amis, si Jésus a eu besoin de Saint-Esprit, combien à plus forte raison sera-t-il indispensable à nous, ses serviteurs? Alors voyons aussi un petit peu son œuvre dans le Nouveau Testament. Et ce qui est frappant, c'est la première œuvre du Saint-Esprit, c'est qu'il convainc de péché. Jean 16, 8, « Quand le Saint-Esprit sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché parce qu'il ne croit pas en moi. » Sans cette conviction, nul ne peut sentir le besoin d'un sauveur. Et le péché que souligne l'Esprit est justement de n'avoir pas encore cru en Jésus, en plus de tous les autres. Mais 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, et il nous pardonnera nos péchés, et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Le Saint-Esprit est ainsi à l'origine de notre démarche spirituelle. Deuxièmement, il nous régénère, c'est-à-dire qu'il opère en nous une transformation et une résurrection spirituelle parce que désormais, nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Jean 3, 6, Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. À présent, nous devenons enfants de Dieu. C'est pourquoi nous proposons le baptême après cette démarche, parce que le baptême démontre ce que l'Esprit de Dieu vient d'opérer dans notre vie. Désormais, nous avançons dans la vie avec l'aide de l'Esprit de Dieu en nous. Acte 2 nous dit « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés, alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le don du Saint-Esprit, voilà le cadeau de Dieu que nous sommes appelés à vivre ensemble en Église et le recevoir après notre conversion. 1 Corinthiens 2, en effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons reçu à boire. Le Saint-Esprit est un don de Dieu, promis à tous, qui se reçoit par la foi. Éphésiens 1, 13, « En Christ, vous avez entendu le message de la vérité et cet évangile qui vous apportait le salut. C'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. » La plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous et sa mission est de nous communiquer la vie et la puissance du Seigneur. Il nous est dit dans Acte 1, « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins jusqu'au bout du monde. » Toutefois, il nous arrive de l'attrister, nous l'avons vu tout à l'heure, puisqu'il est une personne, en lui résistant, en chutant à nouveau dans le péché. L'Esprit qui demeure en nous ne nous quitte pas, mais il cesse de manifester sa puissance et il nous communique sa tristesse en nous disant « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » La confession et la purification s'imposent alors à nous et le remède, c'est nous laisser laver à nouveau nos pieds par le Seigneur. Il donne l'onction et les dons. L'onction, nous la trouvons dans 2 Corinthiens 1. C'est Dieu, en effet, qui nous unit avec vous en Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. Les dons de l'Esprit, nous les trouvons dans 1 Corinthiens 12. Je ne vais pas lire ce passage, c'est six versets, mais il y a sagesse, connaissance, foi, guérison, miracle, prophétie, discernement des esprits, langue, interprétation des langues, don d'être apôtre, d'enseigner, de secourir, de gouverner et encore d'évangéliser et être pasteur. Et cette liste n'est pas exhaustive. Mais tout cela, nous le dit Corinthiens, est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun d'une manière particulière, comme il veut. Il est aussi notre consolateur, et nous l'avons chanté tout à l'heure. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il se manifeste encore par le souffle, le vent, nous l'avons aussi chanté, par une colombe, par l'huile, le feu, l'eau vive, le sceau, le gage, les arts. Il rend témoignage ainsi à Jésus. Il inspire les auteurs de la Bible. Il suscite la prière et l'adoration. L'apôtre Paul utilise le symbole des arts pour expliquer les relations entre les croyants et Dieu, qui leur donne son esprit comme gage et avant-goût de la vie éternelle promise. Relisons ce verset, 2 Corinthiens 1, 22. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau, comme sa propriété, et qui a mis dans notre cœur son esprit comme gage des bienfaits à venir. Ça, ça nourrit notre espérance. Alors, je vais m'arrêter là. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Il y avait tellement d'informations que j'ai dû sélectionner. Deuxième partie, en pratique. Comment le chercher? Comment l'écouter? Comment être sûr que c'est lui? Comment faire sa volonté? Là aussi, c'est très large. Et les réponses que je vais vous donner ne sont pas exhaustives non plus. Le Saint-Esprit est une entité qui est difficilement compréhensible, beaucoup plus que Dieu et Jésus. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. La Bible le désigne parfois, comme on l'a déjà nommé, comme souffle ou vent. Il est invisible et insaisissable. Et Jean 3,8 nous dit, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Alors comment le chercher? Acte 17, 27. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur, le Saint-Esprit, et qu'il s'efforce à le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun. Nous avons la louange, nous avons la prière, la Bible, la communion fraternelle, les partages en groupe, pour trouver, pour saisir le Saint-Esprit. Ça se fait aussi avec les frères et sœurs. Et ça se fait tout seul. Comment l'écouter? Le Saint-Esprit ne se révèle pas à un scientifique, à un littéraire et à un homme de la terre de la même manière. Il se révèle en tenant compte de notre sensibilité et de notre capacité à comprendre. Il se révèle en tenant compte de nos dons qu'il nous a confié. À celui qui a reçu le don d'enseigner, il va révéler les secrets de sa parole. À Betsalel, nous l'avons signalé tout à l'heure, il a révélé les qualités des matériaux, pierre, métaux, bois, et comment les travailler. À celui qui préside, il va mettre un chronomètre dans son cœur. Et que c'est agréable quand ce chronomètre fonctionne, n'est-ce pas? Au louangeur, il va donner la voix, la musique, le sourire, parce que les louangeurs interprètent ce que Dieu veut nous dire. Prenons un exemple d'un galet. Quand nous allons en cure, nous logeons au bord de l'Isère, et l'Isère est remplie de galets. Lorsque vous prenez un galet, ça dépend ce que vous êtes. Si vous êtes quelqu'un de la nature, vous allez penser à ce galet qui s'est détaché tout en haut de la montagne, qui a été chamboulé par l'eau, par la neige, par la pluie, par le ruissellement, et il a donné ce beau galet que vous pouvez ramasser dans la rivière. Et ça nous parle. C'est ce que nous vivons en Église. Si nous voulons devenir un beau galet, eh bien, nous avons besoin des frères et sœurs. Nous nous frottons, nous partageons la Bible, tout ça, et Dieu fait de nous un beau galet. Mais le littéraire qui voit le galet, il dit « oui, c'est beau ». Mais lui va trouver dans la parole la même chose pour arriver au même but. Dans Job, par exemple, 33, verset 14, nous lisons « Dieu se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Et le passage des livres et des rois que nous avons lu tout à l'heure nous parle aussi de cela. Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas, cette fois-ci, dans l'ouragan. C'est moi qui rajoute, cette fois-ci. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas cette fois-ci dans le tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu, et l'Éternel n'était pas cette fois-ci dans le feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger, et l'Éternel était dans ce bruissement, parce qu'Élie avait besoin d'un bruissement ce jour-là. Oui, l'Éternel, le Saint-Esprit peut être dans ces éléments-là, car sur le mont Carmel, c'était pas un bruissement, c'était le feu qui est descendu, parce que Dieu avait besoin de prouver que Élie était son serviteur. Et le feu est descendu du ciel, a consumé l'Holocauste. Chers amis, tout ceci nous oblige à ne pas imposer à nos semblables notre interprétation personnelle du Saint-Esprit. Ce qui n'empêche pas de nous encourager avec des témoignages vécus, comme ce matin, naturellement. Encore un point, comment vérifier si c'est bien le Saint-Esprit qui nous a parlé? En effet, nos pensées et le Saint-Esprit s'imposent à notre esprit. Si ça concerne par exemple deux personnes, Dieu sait se révéler aux deux parties. Et lorsqu'une partie n'a pas eu la révélation, il faut attendre. Je me souviens toujours de cet exemple de notre évangéliste Marcel Graber, qui est décédé depuis plusieurs années. Il nous a raconté cette anecdote. Il était capitaine de l'armée du salut. Et un de ses meilleurs copains vient le voir et dit « Marcel, j'ai eu la vision que nous devions aller, toi, ta femme, et puis moi avec la mienne, je sais pas, faire une œuvre. » Marcel, il a dit « Moi, le Seigneur, il m'a rien montré. » Et effectivement, ce frère a voulu pas écouter et ça a été un échec. Nous pouvons aussi demander des signes pour vérifier. Comme Gédéon, Dieu ne l'a pas rouspété parce qu'il a demandé des signes. Le Saint-Esprit peut aussi nous révéler quelque chose que nous devons porter dans la prière et attendre le top départ. Souvent, dans les anciennes prédications, on entendait parler de la photo, du développement de la photo. Maintenant, c'est numérique, c'est pas, on appuie sur un bouton, ça arrive. Mais avant, il fallait déjà attendre que le film soit fini. Parce que si vous ouvrez la bobine, tout est foutu. Après, il fallait les mettre dans une chambre noire, les développements, tout ça. Et puis après, passer le papier dans un révélateur. Et ça, c'est vraiment un bon exemple. Attendre vraiment le feu vert de Dieu. Et je prends un autre exemple, celui de Nathan. Lorsque Dieu lui a dit « Le roi David a fait une horreur, va le trouver. » Est-ce que vous croyez que Nathan a pris ses deux jambes et a couru au palais du roi? On n'allait pas comme ça au palais du roi. Il a dû se mettre à genoux. Il a dû demander le top départ pour y aller. Il y a toujours nos sentiments personnels qui entrent en jeu et peuvent fausser la révélation. Nous pouvons aussi faire appel à quelqu'un à qui nous avons confiance pour lui soumettre le sujet. Et nous pouvons aussi nous tromper. Ça arrive. Alors il nous faut, avec beaucoup d'humilité, avouer l'erreur et s'excuser. Et lorsque la vérification est confirmée, nous avons le feu vert de Dieu. Alors il faut foncer. Il faut se lancer, s'engager dans l'œuvre de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Pour conclure, nous avons avec Mimi écouté il y a un mois à peu près une prédication d'un pasteur. Il a dit ceci, son enfant lui a confié, « Papa, Dieu ne me parle pas. » Et il a dû le rassurer qu'à lui, Dieu ne parlait pas tous les jours non plus. Et qu'il aimerait entendre une voix solennelle au début de journée, lui dire ce qu'il faut faire. Alors il a pu le rassurer. Il a dit que voilà ce que nous avons vu ensemble. Il y a des étapes pour chercher vraiment la volonté de Dieu. Jean-Baptiste, par exemple, qui était l'envoyé de Dieu, annoncé par prophétie, élevé dans l'ascétisme, qui a prêché la repentance et qui a vu des centaines de personnes venir à lui pour se faire baptiser et qui s'écria en voyant Jésus venir à lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste a aussi proclamé cette merveilleuse parole que je vous cite. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit, tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera du Saint-Esprit. Or cela, je l'ai vu de mes yeux. Je l'atteste solennellement, cet homme est le Fils de Dieu. Et encore un peu plus loin, en voyant Jésus, il s'écrit, celui-ci est mon fils, il entend Dieu dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui fait toute ma joie, écoutez-le. Et puis en prison, Jean est troublé. Il dit ceci, il a appelé deux de ses disciples et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est surprenant. Jean, parce qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, emprisonné, a eu ce moment de doute. Mais Jésus ne l'a pas laissé. Il lui a confirmé qu'il ne s'était pas trompé. Restons donc modestes, mais attentifs à la voix de l'Esprit Saint, car c'est Dieu qui nous parle par l'Esprit Saint. Encourageons-nous ensemble à être à cette écoute. Il parle à l'un d'une manière, à l'autre d'une autre manière. Que nous puissions être des enfants du Seigneur bénis.